6.
De retour dans la boutique, Maurice range la serviette souillée dans l'un des sacs et remonte la fermeture éclair. Puis il s'assoit à l'ordinateur de Andy pour en explorer le contenu. C'est un Mac, beaucoup plus chouette que celui de la bibliothèque de la prison, mais fondamentalement le même. Puisqu'il est déjà allumé, pas besoin de perdre du temps à essayer X mot de passe. Il y a quantité de dossiers commerciaux sur l'écran. Et une application intitulée « Sécurité » dans la barre inférieure. Il devra explorer ça aussi, et très attentivement. Mais d'abord, il ouvre un fichier intitulé « James Hawkins ». Et oui, voici les renseignements qu'il cherche. L'adresse de Peter Saubers, qu'il connaît, et aussi le numéro de portable de Peter Saubers, probablement récupéré par l'intermédiaire du message vocal que son vieux pote a mentionné. Son père s'appelle Thomas, sa mère Linda, sa sœur Tina. Il y a même une photo du jeune monsieur Saubers, alias James Hawkins, posant en compagnie d'un petit groupe de bibliothécaires de la bibliothèque de Garner Street, que Maurice connaît bien. En dessous de ces données, qui pourraient s'avérer utiles, qui sait, figure une bibliographie de John Rothstein, à laquelle Maurice n'adresse qu'un coup d'œil. Il connaît l'œuvre de Rothstein par cœur. À part ce que le jeune monsieur Saubers garde sous le coude, bien entendu. Ce qu'il a volé à son propriétaire légitime. Il y a un bloc-notes près de l'ordinateur. Maurice inscrit le numéro du garçon et glisse le feuillet dans sa poche. Puis il ouvre l'application « Sécurité » et clique sur « Caméra ». 6 écrans apparaissent. 2 montrent Lacemaker Lane dans toute sa gloire consumériste. 2 sont braqués sur l'intérieur étroit de la boutique. La 5e montre ce même bureau où Maurice est assis dans son t-shirt neuf. La 6e montre le bureau de l'arrière-boutique et le corps vautré sur le tapis turc. En noir et blanc, les flaques et éclaboussures de sang ressemblent à de l'encre. Maurice clique sur l'image et elle emplit l'écran. Des flèches apparaissent en bas. Il clique sur la flèche retour arrière, attend, puis clique sur Play et se regarde, fasciné, commettre à nouveau le meurtre de son vieux pote. Fascinant, vraiment. Mais pas un film amateur dont il a envie qu'il soit vu par n'importe qui. Donc, le portable repart avec lui. Il débranche les diverses prises, y compris celles connectées à une boîte brillante estampillée Vigilant Security Systems. Les caméras sont directement reliées au disque dur du portable. Aucun DVD n'est donc gravé automatiquement. Logique. Un tel système de gravure serait légèrement trop onéreux pour un petit commerce comme Andrew Hallyday Rare Editions. Mais l'un des câbles qu'il a ôté était relié à un graveur de disques. Donc, son vieux pote devait pouvoir graver lui-même ses DVD, s'il le désirait, à partir de ses enregistrements vidéo. Maurice fouille méthodiquement le bureau pour les trouver. Il y a 5 tiroirs en tout. Il ne trouve rien d'intéressant dans les 4 premiers, mais le tiroir central est fermé à clé. Maurice y voit un signe. Il cherche parmi les clés de Andy, choisit la plus petite, déverrouille le tiroir et touche le gros lot. Les 7 ou 8 photos explicites de son vieux pote en pleine fellation sur un jeune type trapu bardé de tatouages l'intéressent pas. Mais le revolver, oui. C'est un Sig Sauer P238, rouge et noir, avec des fleurs gravées et dorées à la feuille tout le long du canon. Maurice déverrouille le magasin et voit qu'il est plein. Une cartouche est même déjà engagée. Il reverrouille le chargeur et dépose le revolver sur le bureau. Un autre truc à embarquer. Il fouille plus loin dans le tiroir et trouve tout au fond une enveloppe blanche vierge au rabat rentré et non collé. Il l'ouvre, s'attendant à une dizaine d'autres photos cochonnes, et a le plaisir de tomber sur de l'argent, au moins $500. La chance est toujours avec lui. Il pose l'enveloppe à côté du SIG. Il n'y a rien d'autre, et il est sur le point de conclure que si Andy a gravé des DVD, il les a mis à l'abri quelque part dans un coffre. Mais Dame Fortune n'en a pas encore fini avec Maurice Bellamy. Quand il se lève, son épaule heurte une étagère surchargée à gauche du bureau. Quelques vieux livres dégringolent par terre et derrière eux apparaît une petite pile de boîtiers de DVD en plastique maintenus ensemble par des élastiques. « Comment tu fais ça ?» murmure Maurice doucement. « Comment tu fais ça, mec ?» Il se rassoit et les fait rapidement passer entre ses mains, comme un joueur bat des cartes. Andy a écrit un nom au marqueur noir sur chacun. Seul le dernier signifie quelque chose pour Maurice, et c'est précisément celui qu'il cherchait. Hawkins, en capitale sur la surface luisante. La chance lui a souri plein de fois cet après-midi, peut-être pour compenser l'horrible déception qu'il a connue hier soir. Mais il est inutile de la pousser plus loin. Maurice emporte l'ordinateur, le revolver, l'enveloppe contenant l'argent et le disque Hawkins à l'entrée du magasin. Il les fourre dans l'un de ses sacs de jardinage sans regarder les gens qui vont et viennent sur le trottoir. Si t'as l'air d'être chez toi quelque part, la plupart des gens penseront que t'es chez toi. Il sort d'un pas confiant et verrouille la porte derrière lui. La pancarte fermée oscille brièvement, puis s'immobilise. Maurice baisse la longue visière de sa casquette des Groundhogs et s'en va. Il fait une dernière halte avant de regagner le manoir aux barges. À Locktet, un cybercafé. Pour 12 des dollars de Andy, il se paie 20 minutes dans un box sur un ordi équipé d'un lecteur DVD, plus un café dégueu et hors de prix. Il lui faut moins de 5 minutes pour s'assurer de ce qu'il détient. Son vieux pote, en train de parler avec un gosse qui a tout l'air de porter des fausses lunettes et la moustache de son père. Dans la première séquence, Saubers tient à la main un livre, sûrement les dépêches de l'Olympe, et une enveloppe qui contient plusieurs feuillets, sûrement les photocopies dont Andy a parlé. Dans la deuxième séquence, Saubers et Andy ont l'air de se disputer. Ces mini-films en noir et blanc sont muets, et c'est très bien comme ça. Le gosse aurait pu proférer n'importe quelle phrase. Dans la deuxième séquence, celle de la dispute, il aurait même pu dire « La prochaine fois, je viendrai avec ma hachette, espèce de gros connard. » Maurice quitte Locktet en souriant. Le type derrière le comptoir lui rend son sourire en disant « J'en déduis que vous vous êtes bien amusé ?»« Oui, » répond l'homme qui a passé plus des deux tiers de sa vie en prison. « Mais ton café était dégueu, crâne d'œuf. J'aurais dû te le verser sur la tête, putain. » Le sourire s'efface du visage de l'employé. Beaucoup parmi les clients sont des consommateurs de crack. Avec ces gens-là, vaut mieux filer doux et espérer qu'ils reviendront jamais.